Fréquencier, info locale, confinement.
Bonjour Jean-Paul Topin.
Bonjour.
Alors c'est le 8 mai bientôt, mais ça va être un 8 mai très particulier.
Bah oui, parce que théoriquement, on avait reçu un mail du ministère de l'Intérieur par lequel toute manifestation commémorative devait être arrêtée vu le confinement qu'on avait, quoi. Et suite à la protestation de plusieurs sections nationales, enfin départementales, on nous a permis de pouvoir, disons, commémorer, mais discrètement, si on peut appeler ça discrètement, sans public, avec un petit comité restreint, de faire un dépôt de gerbe devant le monument aux morts de chaque commune.
Alors vous allez nous donner, en tant que président du NCAFN de Sillé Soldats de France, et également que président du Souvenir français, hein, de cette même zone, vous allez nous expliquer clairement comment ça va se passer, ce comité réduit.
Alors ce comité réduit, il va se limiter au président de la section, enfin moi, je représente les deux sections, donc ça va éviter les jeunes personnes, monsieur le maire, un adjoint. Moi, j'aurai certainement mon trésorier de la section AFN. On aura un pompier, un gendarme et un porte-drapeau.
Et pas de musique. Pas de musique.
Pas de musique, non. Bah non, parce qu'il faut éviter le maximum de personnes sur le terrain, vu le confinement. Et puis, moi, j'emmènerai certainement mon portable pour jouer la Marseillaise, et puis c'est tout, quoi.
Et voilà, oui. Donc
après le dépôt de gerbe, on fera. C'est tout simple. Il n'y aura pas de montée de couleur. Hein, ce sera vraiment le strict minimum. On sera sur la place devant le monument aux morts, espacé de 1,50 m à 2 m chacun, de façon à pas avoir de contact. Interdit au public. Et le dépôt de gerbe se fera chacun son tour, puisqu'on aura deux gerbes, moi et Monsieur le Maire. Et ça s'arrêtera là, quoi. Minutes de silence après, et puis éventuellement la Marseillaise.
Alors quand on dit interdit au public, c'est-à-dire que s'il y a même des personnes qui ont envie de commémorer cette date et qu'ils s'approchent, qu'ils cherchent à se rapprocher, ce ne sera pas possible.
Non, il faudra qu'ils se mettent un peu à l'écart. On fera peut-être un petit topo juste avant que de commencer. Quoi.
Voilà, en s'écartant les uns des autres, à distance. C'est place de la République, donc il y a quand même de la place, il y a de l'espace.
Oui, de toute façon. Alors, j'ai demandé à ce qu'il y ait deux voitures de déplacer juste devant le monument aux morts, de façon à ce qu'on puisse être tous les 6 ou 7 là, et puis ça s'arrêtera là, quoi.
Alors, jamais vous n'avez connu de célébration d'un 8 mai ou d'une autre célébration patriotique dans des conditions pareilles, jamais.
Jamais, moi, parce que je suis relativement jeune par rapport aux anciens qui sont des anciens combattants. Moi, j'ai jamais connu ça, quoi. C'est la première fois. Ça faisait mal au cœur de ne rien faire alors qu'on était au 75e anniversaire de la libération, quoi.
Voilà, c'est un contron, hein. On aime bien célébrer les 25, les 50, les 75 et les 100 ans d'événements, ou après les bicentenaires. Ça doit vous faire un peu mal au cœur, effectivement, de pas pouvoir faire de cette journée un événement important pour rappeler l'histoire. Mais rappelez-nous un petit peu, justement, pour ceux qui connaîtraient pas trop cette histoire de la période de 44-45 à Ciel-Guillaume. En fait, Ciel-Guillaume, ce 8 mai 45, lorsque l'armistice est signé, qui termine la guerre pour la partie européenne, en tout cas, Ciel-Guillaume est déjà libéré depuis longtemps.
Il a été libéré le 10 août 44. Ouais.
Et vous pouvez nous rappeler dans quel contexte ça s'est passé, cette période entre, on va dire, le printemps 44 et la fin août 44?
Disons que la période de août 44, il y a eu quelques escarmouches sur Sillé, notamment à la Louchère, où il y avait des Allemands qui étaient là, quoi, et puis les Américains arrivaient avec leur matériel, et ils ont essayé à les déloger de la Louchère.
C'est à quel endroit, ça, exactement?
La Louchère, sur la route de croisement de la Rocade, de la route de Rouesset, la route de Paraine.
D'accord. Donc ça, c'était à quel moment du mois d'août?
Le jour du débarquement, le jour de la libération, le 10 août.
Le jour de l'arrivée, hein, voilà.
Le jour de leur arrivée sur Sillé, quoi.
Et ils arrivaient d'où? Ils arrivaient de quel côté, alors, à ce moment-là?
Alors, il y en a qui sont arrivés de la route de Rossé, d'autres qui sont arrivés de la route Bretagne.
Et ceux qui sont rentrés en ville en premier venaient de la route Bretagne, en fait. Ils venaient de l'Ouest.
Je pense qu'ils venaient de la route Bretagne et les escarmouches ont eu lieu à l'Albuchère par ceux qui arrivaient de la route parraine Rossé, quoi.
Alors, donc ça, c'était à l'époque. Il y a eu aussi des bombardements, mais à quelle époque il y a eu des bombardements sur Sillé?
Ah, bah, c'était plus tôt, hein. C'était. Il y a eu plusieurs périodes de bombardements, au moment du débarquement, là, juste avant. Et puis, une année plus tôt aussi.
Et pourquoi Sillé était bombardé à ce moment-là?
Bah, Sillé était bombardé pour. Justement, pour retarder le retrait éventuel des Allemands, quoi. Parce que. Les bombardements consistaient, au niveau de 44 du mois d'août, là, il fallait barrer, disons, l'accès aux Allemands ou le retrait des Allemands. Alors, ils essayaient de bombarder les deux ponts, le pont de la route de Sablé et le pont de Godard.
Comme on parle de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un événement qu'on ne connaît pas tant que ça, finalement, mais auquel vous êtes très attaché, je le sais. Qui s'est passé en 40 avec des soldats sénégalais. Vous pouvez nous en toucher un petit mot?
Oui, tout à fait. Alors, disons qu'en début de 40, quand les Allemands sont arrivés, il y a un détachement de tireurs sénégalais qui devait prendre le train pour aller rejoindre les combattants en Bretagne. Et ils sont fait interpeller justement par la troupe allemande qui avait stationné à Sillé plage. Donc, il y en a une douzaine, 14, hein, ont été pris par les Allemands et qui les ont emmenés sur le Pré Guité, là, sur le boulevard des Jardiniers, pour les fusiller. Alors c'est dommage parce que cette année, bon, je ne sais pas comment ça va se passer parce que c'était quand même un anniversaire aussi.
Ouais, exactement.
Ça aurait fait les 80 ans, quoi. Et on comptait faire quelque chose de un peu plus étoffé, nous, au cimetière, avec la section AFN et souvenirs français. Alors là, avec le confinement, je ne sais pas comment ça va se passer. Une petite histoire à faire là-dessus, mais je ne sais pas si on la fera.
Est-ce que vous êtes nombreux dans la section ANC-AFN?
Section AFN, avec les anciens et puis les soldats de France, on approche les 85
personnes. Ah oui, d'accord, ouais. Hein. Et quel est l'âge moyen dans l'association?
L'âge moyen est quand même au-dessus des 65 ans. Hein,
ouais.
Bon, les gars comme moi, ils ont 70 ans. Bon, il y a un tout petit peu de plus jeunes, mais sinon, c'est les anciens combattants FN, ils ont 80, jusqu'à 85, 90, 90 ans.
Ouais, c'est ça, oui. Hein, ça reste les témoins, finalement, de la dernière implication dans une guerre, de contingent, en tout cas, parce que la France a été aussi engagée très récemment, elle l'est encore, sur des champs de bataille, mais ce sont des militaires de carrière. Vous, c'était les anciens d'AFN, vous étiez finalement le dernier contingent à partir.
Ouais, c'était un contingent qui est parti, sous les drapeaux en tant qu'appelé, hein. Ils n'étaient pas militaires, ce qu'on a dit, hein. C'était juste appelé en tant que appelé du contingent.
Et est-ce que vous avez des moments de célébration entre vous sur cette guerre d'Algérie, sur les événements, comme on disait à l'époque?
Tous les ans, je fais une commémoration le 5 décembre. Parce que contrairement à certains qui veulent que ce soit au mois de mars, moi je considère, on est pas mal à considérer que la vraie fin de la guerre d'Algérie, c'est le 5 décembre. Parce qu'entre le mois de mars et puis le décembre, il y a encore eu 220 soldats français qui se sont fait tuer en Algérie. Donc, c'était pas vraiment la fin de la guerre au mois de mars. C'était, puisqu'il y a eu l'OAS, il y a eu des attentats tout de suite après qui ont fait je ne sais pas combien de milliers de morts. Et pour nous, la fin de la guerre d'Algérie, c'est le 5 décembre.
Alors, pourquoi ça vous...
Tous les ans, nous faisons une petite commémoration le 5 décembre à 11h devant le monument aux morts.
Alors pourquoi ça vous paraît important de commémorer ces événements historiques?
Eh bien, parce qu'il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'oubli, tout ça, hein, parce que c'est quand même... l'Algérie, c'est ce qu'il y a de plus récent comme conflit vis-à-vis de la population actuelle, quoi.
C'est pour maintenir le souvenir, ouais.
Il faut garder le souvenir et puis la pensée de tous ces jeunes de 20 ans, qui sont partis malgré eux combattre sur une terre lointaine, quoi.
Et je repense, vous êtes aussi président du Souvenir français. Il arrive que le Souvenir français, par exemple, aide des jeunes à pouvoir aller sur des lieux de bataille ou du mémorial, ouais, ou du musée.
Tout à fait. Alors, comme on ne peut pas leur donner de l'argent, nous, on fait une demande de subvention à la mairie, une demande de subvention exceptionnelle, hein, qui chaque année s'en va soit pour le lycée-collège Paul Scarron, ou soit pour 5 heures de Marie pour le collège. Et tous les ans, enfin, une année sur deux, chaque groupe scolaire va sur les plages de débarquement ou sur un lieu de commémoration.
Juste rappeler que, d'après le communiqué de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, ce qui va se passer ce 8 mai, il y aura donc une cérémonie présidée par le président de la République qui aura lieu à Paris le matin, à l'Arc de Triomphe, en présence d'un nombre restreint d'autorités civiles et militaires. Et ce sera également, comme à Ciel-Guillaume, une cérémonie nationale qui ne sera pas ouverte au public, mais qui sera retransmise en direct à la télévision. Hein, ça, il faut le rappeler. Que dans l'ensemble des départements, eh bien, les préfets et haut-commissaires donc, vont organiser une cérémonie au monument aux morts de la commune chef-lieu, pareil dans un format restreint, que vous avez obtenu, comme vous l'avez rappelé dans les communes, la possibilité de faire aussi en format restreint, respectant strictement les mesures de distanciation, un dépôt de gerbes au monument aux morts, sur une cérémonie qui n'est pas ouverte au public, comme vous l'avez rappelé. Et enfin, il y a un dernier volet qui est suggéré par le secrétariat d'État, c'est de manifester la participation à cette journée nationale en demandant aux Françaises et aux Français qui le souhaitent de pavoiser leur balcon aux couleurs nationales. Est-ce que c'est quelque chose que vous suggérez aussi au CIE, hein?
J'en avais parlé, nous on est pour, mais bon, il n'y a pas beaucoup. Les gens ont mis des drapeaux quand c'était la Coupe du Monde. On ne voit pas pourquoi ils n'en mettaient pas ce jour-là.
Effectivement,
non,
oui.
C'est vrai. Hein, je pense qu'il faudrait que chacun soit conscient de ce qui s'était passé et ce qui se passe, quoi. Hein, le 8 mai 45, là, bon, on avait quand même des résistants, nous, à Signé, qui sont fait tuer qui sont partis. En Allemagne, ils sont restés sur place, quoi, dans les camps de concentration.
Vous pouvez nous en citer quelques-uns ou des actions qu'ils faisaient?
Oui, les actions, ils étaient tous résistants. Hein. Je peux pas dire les actions qu'ils faisaient, mais bon, je peux vous donner les noms. Alors, on avait Guignard Ernest, qui a été arrêté le 22 février 1944, déporté le 15 mai 1944 et qui est décédé en Allemagne le 11-4-45. On a eu Pierre Quintard, qui a été arrêté le 21, lui, un jour avant Guignard. Il a été déporté au mois de juin, et par contre, lui a été libéré le 22-4-45. Il est arrivé en France au mois de juin 45, et il est décédé en 46. On a eu Drouet-Émile, que beaucoup ont connu, qui était marchand de journaux et bar tabac place de la République, qui a été déporté le 28 avril 44. Et il a été rapatrié le 30 avril 45. Lucas Jean-Pierre, arrêté le 21-2-44. Il a été déporté, c'est pareil, comme les trois autres, le 1er juin. Il a été rapatrié en 45 et il est décédé des suites de la déportation en 48. Il y a eu Monge-Néjean, un pâtissier, que
oui.
Son fils est toujours vivant, qui a été déporté, lui, le 15 mai 44 et qui a été rapatrié le 8 mai 45. Et enfin, Quintard Jean-Pierre, arrêté le 21 février 44, il faisait partie de la bande de tous les résistants, là, déporté le 1er juin 44 et il est mort en déportation le 16 janvier 45 en Allemagne. Voilà.
Alors, il y en a aussi d'autres sur d'autres communes et on peut penser que pour les personnes qui sont intéressées par cette histoire, il y a le petit ouvrage d'UBCO2 de Louis Lefebvre, préfacé par l'historien Jacques Chénier, qui est à nouveau disponible et qui raconte un peu ce qui s'est passé dans la résistance et surtout la déportation, ce qu'ont connu toutes les personnes que vous venez de citer ici, qui ont été arrêtées, qui sont passées par la prison des archives au Mans. Donc c'est l'occasion aussi de rendre hommage à ces résistants. Voilà, tout à fait. Eh bien, on va vous remercier, Jean-Paul Taupin, d'avoir rappelé tous ces éléments. Et puis, on va vous souhaiter, malgré, comme on le disait tout à l'heure, ce contexte bien morose, une journée pleine de dignité pour ce 8 mai qui fête les 75 ans de l'armistice pour la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, pour ce qui est de la partie européenne, car il faut le rappeler après, ça continue aussi en Asie. Merci à vous, Jean-Paul Taupin. Merci à vous.
Les documents d'information diffusés par Fréquence CIA pendant cette période sont réalisés en situation de confinement avec les moyens élémentaires en termes techniques. Pour cela, nous vous demandons de nous excuser de la qualité parfois très incertaine d'un certain nombre de nos documents. Mais il vaut mieux avoir de l'information, même si la qualité est incertaine, que pas d'information du tout.